Bonjour et bienvenue pour le 10e numéro de Dans Spectateur. 10e numéro, champagne, et surtout merci à vous pour votre fidélité. Alors à l'origine de l'émission, vous le savez, la volonté de couvrir la programmation théâtrale de l'ENS et comme partenaire privilégié En Scène. Alors depuis, nous avons élargi le spectre de nos partenaires et nous vous avons emmené depuis la rentrée à l'Opéra de Lyon, au Théâtre des Célestins, au Théâtre de Vénissieux, aux Ateliers de Lyon et bientôt nous pousserons également la porte du Théâtre des Marronniers. Et cette semaine, pour notre 10e numéro, une programmation assez représentative de l'émission et de ce que je viens de vous dire, puisqu'en effet, je vous invite d'abord à découvrir le prochain spectacle programmé par En Scène, La maladie de la famille M, joué par la compagnie du Bonheur Vert les 23, 24 et 25 novembre prochains. Puis, je vous inviterai à l'Opéra de Lyon, où Stefano Robaglia, assistant du chef d'orchestre, vous présentera le concert Les Puritains, de Bellini, dont le premier numéro, le premier concert, avait lieu hier, mardi 13 novembre, mais dont le prochain et le dernier également aura lieu dimanche 18 novembre à 16h. Retenez bien. Programme éclectique pour le 10e numéro d'En Spectateur, donc. Alors c'est d'abord au Théâtre Cantor que je vous emmène cette semaine pour vous présenter une pièce, La maladie de la famille M, jouée par la compagnie du Bonheur Vert, les 23 et 24 novembre à 20h30 et le dimanche 25 novembre à 17h. Et pour vous présenter cette pièce, je reçois Marie Valin, créatrice d'images et directrice technique pour ce spectacle, et Antoine Prudhomme, comédien. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va d'abord parler de Fausto Paravidino, parce qu'on va voir que cette figure va revenir tout au long de l'interview, et aussi parce que ce jeune dramaturge contemporain, qui est né en 1976 à Gênes, a signé La maladie de la famille M. Alors, dire rapidement que c'est un véritable homme de théâtre, puisqu'il est à la fois comédien, metteur en scène, traducteur, dramaturge, il s'est même essayé au cinéma, il déborde de ses activités. Et dans sa assez jeune carrière, et pourtant très riche, il signe donc La maladie de la famille M, qui est rentrée d'ailleurs au répertoire de la Comédie française l'année dernière, en 2011, et qui, tous les critiques le disent, a un côté fascinant, et en tout cas le plus abouti dans sa dramaturgie, puisqu'on va du plus intime des personnages jusqu'à la portée la plus universelle. Alors qu'est-ce qui vous a marqué, Marie et Antoine, et vous a intéressé dans le théâtre au sens large de Fausto Paravidino? Est-ce que vous le connaissiez déjà, et comment s'est fait la rencontre avec cet auteur et avec ce texte?
J'ai rencontré Fausto Paravidino et son écriture à l'initiative de Gaëlle Abou, la metteuse en scène, que je connaissais depuis quelques années déjà. J'avais déjà un petit peu travaillé avec elle, et elle m'a recontacté en me disant: j'ai un rôle pour toi dans cette pièce que j'aimerais monter, on va en faire une lecture. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré cette écriture, et ce que j'ai aimé dedans, c'est une écriture... Il fait beaucoup de références à Tchekhov dans la pièce. J'ai l'impression que c'est un petit peu un de ses maîtres, entre guillemets. Et j'ai trouvé que ce qui était plaisant dans cette écriture, c'est que, à contrario de beaucoup d'écritures, entre guillemets, quotidiennes, elle s'était vraiment au plus proche de nous et pas du tout affectée dans le quotidien.
Oui, la sensation que ça pouvait parler à n'importe quel type de public et de manière très différente, en fait. Et ça s'est vérifié lorsqu'on a joué ce spectacle à plusieurs reprises déjà. Et il y a certaines personnes qui vont beaucoup rire pendant la pièce, puis alors d'autres pas du tout. Et c'est assez marrant, en fait, de voir à quel point ces scènes du quotidien affectent tout le monde, tous les publics, toutes les couches sociales, sans distinction, et de manière pourtant assez différente.
Alors tout le monde sera touché de façon différente lors de La maladie de la famille M, qui est l'histoire d'une famille dont les membres sont coincés les uns les autres, les uns contre les autres, les uns avec eux-mêmes, coincés là, endeuillés là, on ne sait pas trop où d'ailleurs, dans une campagne italienne assez indéterminée, endeuillés par la perte de la mère et la maladie évolutive du père, et... qui se nouent comme des lacets à leur propre cheville pour s'empêcher d'évoluer et d'avancer. Alors, ces personnages, c'est d'abord le père, Luigi, qui ressasse la mort de sa femme et qui accuse son docteur pour s'empêcher de voir ce qui se passe en lui-même. C'est aussi sa fille, Martha, qui s'occupe des autres pour ne pas s'occuper d'elle-même. C'est aussi son autre fille, Maria, qui s'amourache tantôt de Fulvio, que tu joues, oui. Antoine. Tantôt de Fabrizio, peut-être pour n'aimer personne. Et enfin, Gianni, le fils, le jeune frère, qui déstabilise tout ce beau petit monde par son cynisme, son ironie et son franc-parler, ainsi que ses idéaux contestataires. Alors, finalement, on se demande si les personnages de cette pièce, ils ont tout simplement pas mal à vivre et qu'ils préfèrent s'évader vers le jeu, le mensonge, le souvenir et l'oubli.
Oui, tout à fait. Dans une des premières versions qu'on avait faites de ce dossier, on concluait en quelque sorte en disant que la maladie qui affectait la famille M, c'était la maladie de la vie, tout simplement. Et c'est vrai que c'est ça qui se joue, en fait, dans cette pièce. Et ce qui se joue, c'est la vie en elle-même que nous, on joue au quotidien. Et c'est aussi la vie du théâtre. C'est en fait le théâtre. Et il est très présent sur scène, ce jeu du théâtre, notamment grâce au personnage de Gianni qui est là et qui veut faire jouer les autres à un jeu. On ne sait pas ce que c'est ce jeu. Apparemment, lui-même, il ne sait pas ce que c'est ce jeu. Mais le jeu est là, en tout cas. Et la vie est là chez Gianni aussi.
Et d'ailleurs, ce personnage de Gianni, il est assez particulier parce que si on regarde, on va reparler encore de Fausto Paravidino, mais il a joué plusieurs fois dans sa pièce et joué notamment ce rôle de Gianni. Donc ça montre quand même qu'il y a un relief particulier à ce personnage. Il ne l'a pas choisi pour rien. Et surtout, c'est un peu lui qui redonne la vie dans cette famille.
Qui essaye, en tout cas.
Oui, qui essaye.
Mais à travers les jeux, il n'y a pas que Gianni, parce qu'il propose le jeu, qui propose une alternative pour essayer de vivre. Chacun essaye d'une manière complètement différente tout au long, avec plus ou moins de résultats. Est-ce que Gianni réussit mieux? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est la vraie question que pose la pièce. C'est juste comment vivre, en fait.
Et on voit, enfin, quand on écoute un petit peu, on vous écoute parler, quand on lit aussi des résumés de la pièce, on voit que c'est quand même un texte sombre et des préoccupations très sombres. Et on vous entend aussi, mais on rit beaucoup. Alors, est-ce que c'est pas ça la force aussi du texte de Fausto Paravidino? C'est son équilibre précaire. On a l'impression de marcher sur un fil entre le désespoir et puis l'espoir qui est toujours là, parce que j'ai l'impression que tous les personnages essayent de vivre et il y a toujours cette petite chance qu'ils y arrivent. Donc c'est ça la force, c'est que c'est une pièce de l'équilibre.
Bah, sur un premier plan, il y a déjà l'écriture de Fausto Paravidino qui est vraiment comme ça, en fait, qui va chercher dans tous les registres. Il y a des scènes qui parlent au fond, qui au fond pourraient être très graves et qui sont traitées d'une manière plutôt amusante. Mm-hmm. Et à l'inverse, des scènes qui pourraient sembler anodines et seulement plaisantines. Et finalement... parle beaucoup de ce que les gens refusent de parler eux-mêmes. Il y a l'écriture en elle-même, et puis il y a aussi que Fausto Paravidino est italien et qu'il y a quelque chose dans le rythme de son écriture qui fait que ça va très vite, les répliques se suivent très rapidement, et il y a un rythme très élevé qui fait aussi que l'énergie n'est pas seulement sombre et grave, on a l'impression d'entendre quelque chose de lent et de lourd. C'est pas, même si les choses graves, s'il y a des choses graves qui se jouent, le rythme n'est pas forcément lent pour autant. Il y a quelque chose qui... ça déménage aussi sur scène, en fait.
Oui, parce que Marie, des choses lourdes, il y en a quand même dans cette pièce. Par exemple, le père qui à la fois a perdu sa femme dans des circonstances un peu compliquées, un peu troubles, incertaines, et qui en même temps est malade. Donc bien plombé, on va dire, ce personnage du père.
Oui, c'est sûr, le personnage présenté comme ça a l'air bien plombé, mais il faut venir sur scène et il faut venir le voir, parce que c'est presque le plus drôle, en fait.
D'accord. Donc là encore, contre-pied dont
Antoine,
tu parlais.
Contre-pied, voilà, dans la présentation des personnages. En fait, on a cherché aussi, dans notre mise en scène, à creuser ces personnages qui avaient déjà beaucoup de profondeur, finalement, par l'écriture de Paravidino.
Alors comment vous avez travaillé, justement, pour vous démarquer de ça, parce que donc là on parle du texte, on va encore reparler tout à l'heure, et c'est vrai que on parle de la figure de Paravidino qui hante, puisqu'il a été metteur en scène, on en reparlera, il a été comédien, il a écrit cette pièce. Comment on fait pour se démarquer et quel choix on prend, parce qu'effectivement il a mis en scène à deux reprises son texte, et forcément quand on essaye de travailler un petit peu, on a ces exemples en tête. Alors déjà, est-ce que vous avez fait des recherches, vous, je parle au sens large, je parle aussi de Gaël Abou et de Paul Biguet, qui l'aide à la mise en scène. Et
Gaël donc, a monté la compagnie du Bonheur Vert autour de Chalon-sur-Saône avec la volonté de faire vivre ce qu'on appelle un théâtre psychologique, qui n'est pas vraiment à la mode en fait, actuellement dans le monde du théâtre. Parce qu'elle estime que c'est ce qui apporte le plus aux spectateurs et aux comédiens. Et elle essaye de faire travailler ensemble des amateurs et des professionnels de manière à ce que la pièce qu'ils jouent leur apporte quelque chose à leur vie propre.
D'accord.
Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le début du projet, parce que j'étais vraiment toute neuve quoi, dans le monde du théâtre, c'est le travail de table, en fait. C'est parler de la pièce, et puis elle demandait à chacun, et pour toi, à cet endroit-là, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Parce qu'il y a plein, il y a beaucoup d'ellipses dans l'écriture de Paravidino, il y a beaucoup de choses qui sont lancées comme ça, puis bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, tous ensemble, on s'est construit vraiment tout un univers en fait autour de cette famille qui est devenue notre univers à nous. Et pour moi, c'est ça qui donne vraiment notre profondeur à la pièce de Paravidino.
Mais paradoxalement, même si tout est déjà dans l'écriture, en fait. Beaucoup de choses y sont, et pourtant je pense que le génie en fait est vraiment là, parce que ça reste ouvert. La plupart des scènes, la plupart des interprétations qu'on peut faire, on peut toujours revenir dessus et trouver autre chose. C'est vraiment, je pense que j'aurais certainement aimé la mise en scène de Fausto Paravidino, je ne l'ai pas vu non plus.
Pareil,
mais ce que j'en ai entendu, les extraits que j'en ai vus me séduisent déjà, et pourtant... Je sais qu'il y a des tonnes de choses sur lesquelles on n'était peut-être même pas d'accord. En premier lieu, mon personnage, par exemple.
Ouais.
Je sais que j'ai moi-même une histoire avec ce personnage qui est un peu particulière. Au début, je ne le comprenais absolument pas.
Alors, pour que les auditeurs le comprennent aussi, quelques mots sur ton personnage.
Eh bien, alors.
Qui marche avec Fabrizio.
Alors, Fulvio et Fabrizio, c'est un couple d'amis de longue date. Ils disent même à certains qu'ils sont cousins, à d'autres qu'ils sont beaux-frères.
C'est les meilleurs potes, on va dire.
C'est les meilleurs amis du monde. Et c'est un duo aussi. C'est ce que je disais aussi sur l'écriture. Une sorte de duo, évidemment comique, qui se crée entre deux parce que leur relation est tellement fusionnelle et pourtant pleine de non-dits aussi qu'il y a forcément l'envergure à chercher dans toute... plein de directions possibles. Et donc Fulvio, c'est le fils de la buraliste,
ouais.
Et c'est en gros le chef de bande.
D'accord.
Parce qu'il y a Fulvio et Fabrizio qui sont le couple d'amis moteurs, mais il y a plein d'amis autour dont on entend parler, qu'on ne voit pas, mais c'est une bande de potes. Et Fulvio est celui qui mène la bande, qui prend les décisions. Voilà, tout ce dont je parle, c'est un personnage très viril, très dominateur, très... c'est un gars du coin. Et j'ai eu beaucoup de mal avec pas mal de choses dans le jeu par rapport à ça parce que c'est pas du tout ce que je suis dans la vie, par exemple. Et en tout cas, j'espère. Et il a fallu creuser vraiment en profondeur pour que je trouve des raisons de m'attacher à lui. Et finalement, ces raisons-là, elles n'étaient pas inscrites dans l'écriture. C'était à moi de les nouer. Et c'est en ça que je dis que Fausto Paravidino écrit bien, puisque j'ai eu cette liberté-là, en fait. J'ai pas eu à rentrer dans le rôle, dans le personnage, je me suis créé mon rôle moi-même. Et je pense d'ailleurs, puisque Gaël Abou, qui a vu la mise en scène de Fausto Paravidino,
d'accord,
était très, très...
La mise en scène l'a vu.
Oui, oui.
Ouais.
D'autres l'ont vu, Simon Bourgade, Elsa Dupuis l'ont vu, la mise en scène. Ils sont parisiens, c'est plus simple.
Ah bah oui.
Gaël m'a dit que le personnage de Fulvio était traité très très différemment, hein,
ouais.
qu'il en faisait une sorte d'imbécile heureux, et que c'était pas du tout ce que nous on en avait fait.
Donc ça, c'était un exemple pour montrer que oui, vous avez pu voir, certains d'entre vous en tout cas, les mises en scène, mais vous avez pris toute l'attitude pour mener votre barque dans cette nouvelle mise en scène de la famille, la maladie de la famille M. Et dans cette histoire, il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, pourtant qui est très important, c'est celui du médecin, spécialiste en maladies tropicales. Et là encore, c'est pas un hasard. Il a un rôle important et Fausto Paravidino, ses deux parents étaient médecins de campagne, également donc comme le docteur. Donc là encore, on voit l'ombre de Fausto Paravidino qui revient. Et donc ce médecin, rôle important puisqu'il assume le rôle de narrateur. Alors il est à la fois impliqué dans l'action, c'est ça qui est ambigu, et en même temps, bah, c'est lui qui, isolé face au public, raconte l'histoire. Alors, c'est un personnage important, mais donc très ambigu, parce qu'il brouille la limite entre réel, fiction, entre spectateur, personnage.
C'est vrai que narrateur, on en a tous une idée très précise, finalement, au début, et puis on se rend compte que celui-là est complètement impliqué dans l'histoire. Mmh. Donc, c'est ce qu'il a d'intéressant, en fait. C'est ce qu'il a d'une vraie profondeur. C'est pas simplement l'intermédiaire avec l'histoire. Il vient vraiment nous la raconter parce qu'il l'a vécu. C'est en ça qu'il y a un effet d'Ariel, comme tu dis, et c'est en ça qu'il est intéressant.
Par exemple, donc, au début de la pièce, il arrive et puis il dit à ses patients « Dites-moi ce qui vous afflige, sans pudeur, pleurez si vous le souhaitez, je vous écouterai, je ne vous interromprai pas. Je ne vous jugerai que si vous le souhaitez, je n'aurai aucune solution à vous proposer, mais en rentrant chez vous, vous vous sentirez mieux. Et si demain vous vous sentez mal de nouveau, vous saurez où me trouver. » Et pour moi, ça ressemble quand même beaucoup à l'idée de la catharsis.
Oui, c'est ça, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a un côté cathartique profond dans cette pièce, et que finalement, cette famille M, d'ailleurs qui n'est pas caractérisée, c'est un M, une initiale, ça pourrait être la famille X, la famille P, et toutes les familles du monde. Il y a un côté très universel dans cette pièce.
Oui, et si demain vous vous sentez mal de nouveau, retournez au théâtre.
C'est ça. Alors justement, aller au théâtre, on ira pour voir la compagnie du Bonheur Vert. Alors, quelques mots quand même sur cette compagnie et surtout sur ce titre, le Bonheur Vert. Pourquoi déjà ? Comment ça s'est imposé ? Alors c'est une compagnie qui est née en 2000, donc on a compris autour de Chalon.
C'est ça. Donc c'est Gaëlle Abou, la metteuse en scène de La Maladie de la Famille M, qui en est à l'initiative, qui est créatrice et de la compagnie. Gaëlle, elle, a décidé de fonder la compagnie du Bonheur Vert pour pouvoir travailler avec les personnes qu'elle aimait. Et donc, que ce soit des apprentis comédiens, des comédiens professionnels ou des amis amateurs de théâtre et de jeu. Et c'est ce qui fait aussi que l'esprit de cette famille M est ce qu'il est et ne peut que être différent de La Maladie de la Famille M faite à la Comédie Française. C'est que la part de chaque personne est tellement, tellement originale. Pour ce qui est du nom de la compagnie du Bonheur Vert, ça vient, je pense, en tout premier lieu de la grande maison qui nous accueille lors des répétitions, qui se trouve en campagne chalonnaise, près de Bissès-sous-Cruchot, en Saône-et-Loire.
Ça, j'aime bien quand on sait tout dans les interviews. L'adresse, peut-être, non
Dans le hameau de Meuruges, exactement.
À peu près envoyez vos cartes postales.
7 habitants et plein de gars du coin.
Oui.
Et donc,
plutôt fluviaux, les gars du coin.
Ah oui, très fluviaux. Oui, mobilette et tout ça.
Ah oui, attention.
Et donc, compagnie du Bonheur Vert pour ça, parce que c'est d'abord une maison, c'est aussi un lieu, la compagnie du Bonheur Vert, et elle ne saurait être ailleurs.
En tout cas, le Bonheur Vert, il ne peut être nulle part, tu dis. Il sera en tous les cas sur la scène du Théâtre Cantor, les 23 et 24 novembre à 20h30, et le dimanche 25, en matinée, comme on dit, à 17h. Dans une mise en scène donc de Gaëlle Abou, assistée par Paul Biguet, sur une traduction de Caroline Michel, qui a donc traduit la pièce de Fausto Paravidino, citons quand même la traductrice, on a beaucoup parlé du dramaturge, avec sur scène Bertrand Beldan dans le rôle de Luigi, Simon Bourgade dans celui de Gianni, Elsa Dupuis sera Maria, Nadine Galland, Martha, le docteur Cristofolini dont on parlait tout à l'heure sera interprété par Pascal Finance, Fabrizio par Romain Ozanon, et donc toi Antoine, tu assumes le rôle de Fulvio. Alors sans oublier Romain Ozanon, mais aussi toi Marie, qui vous êtes chargée de la création d'images et de vidéos, et enfin à la création d'affiches, Antonin Caniparoli. Merci.
Merci beaucoup.
Changement de genre, de registre et de décor et bienvenue en Angleterre, au XVIIe siècle, au moment où les puritains prennent le parti de Cromwell contre Charles Ier Stuart. Bienvenue en Angleterre, mais bienvenue à l'Opéra de Lyon, bien sûr, pour deux représentations en version concert, des puritains, Il Puritani de Bellini. Encore une pièce historique, après Macbeth. Encore un italien,
après Verdi. Et encore une fois, la petite histoire rejoint la grande lorsque Elvira, fille d'un gouverneur puritain, doit épouser un cavalier du parti adverse, Arturo, qui fuit le jour de leur mariage, sacrifiant l'amour au profit de son camp, en aidant la veuve de Charles Ier, Henriette de France, à s'enfuir de la forteresse où elle est retenue. Apprenant que son amant est parti avec une dame, Elvira sombre alors dans la folie, mais pas de mystère et ne vous inquiétez pas, l'histoire se clôt sur un happy end, puisqu'en effet, chez Bellini, l'essentiel n'est pas la dramaturgie classique, réduite ici à la portion congrue, mais la grandeur de la partition, le plaisir du bel canto. Alors pour nous parler de ce mélodrame en trois actes de Vincenzo Bellini sur un livret de Carlo Pepoli et fondé sur un drame historique de Jean-Jacques François Ancelot et Joseph Xavier Boniface, tétron des cavaliers, je vous emmène donc à l'Opéra de Lyon, du côté de l'entrée des artistes, pour une interview exclusive avec Stefano Rabaglia, lui-même chef d'orchestre, et pour ces deux concerts des Puritains, joués les mardis 13 et dimanche 18 novembre à l'Opéra, assistant du chef d'orchestre Evelino Pido. Interview. Alors bonjour Stefano Rabaglia.
Bonjour.
Alors je le disais à l'instant à nos auditeurs, vous êtes chef d'orchestre. Vous avez par exemple dirigé alors les plus récemment la Traviata à Venise en 2010, l'année dernière le Barbier de Séville à Oslo, et puis en octobre dernier, toujours à Venise, c'était Locazione fa il ladro. Et là donc, pour les Puritains de Bellini, à l'Opéra de Lyon, un opéra en trois actes, vous assistez Evelino Pido, chef d'orchestre, oui, pour deux représentations, celle de mardi 13 novembre et celle de dimanche 18 novembre. Alors, les Puritains, Bellini, pour vous, qu'est-ce que ça fait de diriger une partition sur justement Bellini ?
La musique de cette période, de Bellini, Donizetti, pose des problèmes aux chefs d'orchestre qui sont tout à fait particuliers. Parce qu'il s'agit de partitions qui sont apparemment simples, je dirais-je. Avec l'orchestration n'est pas tellement riche comme la musique de Verdi et puis plus tard de Puccini ou Wagner ou Richard Strauss. Donc pour le chef d'orchestre, c'est plus difficile, parce qu'il faut trouver dans la partition surtout ce qui n'est pas écrit.
Vous nous dites c'est difficile quand c'est simple.
Ah
finalement.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus difficile parce que une partition de Puccini, c'est vraiment tellement bien écrit, riche d'indications. Donc on peut seulement la ruiner. Mais c'est difficile d'ajouter quelque chose ou de changer les choses, parce que c'est une autre époque. La musique était écrite d'une autre façon, avec des temps différents. Et à l'époque du bel canto, les compositeurs devaient écrire souvent très très vite. Et donc, ils ne pouvaient pas tout écrire, mais il y a une partie qui est la plus importante, que c'est l'interprétation. Et là, c'est vraiment difficile, et j'ai appris à petit à surtout dans les années que j'ai travaillé avec Evelino Pido, j'ai appris à aimer ce répertoire et à essayer de trouver ce qui n'est pas écrit, mais quand même fait partie de la partition de l'ouvrage.
Alors, dans la partition de Bellini, qui est un auteur qui a eu une carrière assez courte, il est mort à 34 ans d'une tumeur intestinale.
Juste après les Puritains.
6 mois après, il mourait, et dans son œuvre, on ne retient pas forcément les Puritains. On retient peut-être I Capuletti e di Montecchi, on retient peut-être la Somnambula et surtout Norma, avec cette magnifique interprétation de la Callas, qu'il a figée, on va dire, pendant un petit moment, en ayant redonné justement au bel canto dont vous parliez, des accents loin du vérisme, des accents sincères, des accents vraiment plein de vie et plein d'énergie. Et on retient pas forcément les Puritains. Alors justement, c'est la dernière pièce de Bellini. Elle a été jouée le 24 janvier 1835, il mourait en septembre.
qu'est-ce qu'elle représente pour vous, les puritains, dans l'œuvre de Bellini, et quelle est sa couleur particulière?
Oui, alors c'est vrai qu'il a travaillé à la partition des Puritani beaucoup plus longtemps que pour les autres opéras. Et il a fait un grand travail d'expérimentation, on peut dire. A vraiment expérimenté beaucoup de choses par rapport à l'orchestration et la partition est beaucoup plus riche de signes, d'indications, de nuances, de phrasés que les autres opéras qu'il a écrits. Et donc vraiment c'est une espèce de on dit testament, en fait c'est le testament. Et le problème c'est que la difficulté pour les chanteurs est absolument terrible, c'est une difficulté. Surtout pour les ténors. Le ténor qui est une espèce de ténor que aujourd'hui n'existe plus. Il a, tout le monde le sait, il a écrit un contre-fa pour le ténor. C'est une note absolument impossible à chanter aujourd'hui avec le style de chant moderne. À l'époque, le ténor comme Rubini, qui a créé le rôle à Paris, était un baryton ténor, disons. Donc une voix riche, pleine de baryton, avec des aigus et des contre-aigus, probablement en falsetto, en falsettone, et qui lui permettait de chanter des notes très, très, très aiguës. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que les ténors doivent chanter Verdi, tout le répertoire, et ils ne peuvent pas être spécialisés pour chanter. Donc c'est vraiment très difficile à jouer cet ouvrage. Parce que vraiment pour les chanteurs est un défi incroyable. Et en plus, il faut aller plus loin que le virtuosisme vocal. Donc, comme vous avez dit, et c'est très très vrai, c'était Callas qui a fait vraiment une espèce de renaissance de ce répertoire, parce qu'elle chantait ce répertoire avec la technique, avec les variations et tout ça, mais avec une expression absolument moderne, absolument émouvante. Et donc c'est deux fois difficile. C'est difficile pour chanter les notes et c'est difficile pour interpréter les rôles et d'une façon vraiment convaincante.
Convaincante. Alors, merci. Justement, ce répertoire si difficile à interpréter, c'est le bel canto dont on parle depuis tout à l'heure, et alors ces airs coulants, expressifs, et parfois très spectaculaires, on parlait du contrefa à l'instant, c'est le bel canto qui s'invite à Lyon, mais peut-être qu'il s'invite trop rarement à l'Opéra de Lyon, parce que quand on regarde la programmation de cette année et de l'année dernière, le bel canto a une part si ténue à l'Opéra de Lyon, et puisque vous voyagez beaucoup, je l'ai dit en vous présentant, est-ce que c'est quelque chose qui est la norme un peu partout? Est-ce qu'il y a une perte de mode du bel canto?
Oui, tout à fait, c'est la norme un peu partout, même en Italie, pour les raisons que je dis, c'est difficile de trouver une distribution. Et donc le public le connaît toujours de moins en moins, sauf peut-être les mélomanes.
Et vous, en tant que chef d'orchestre, c'est vraiment un défi pour vous le bel canto, et est-ce que c'est un défi plaisant? Avoir plaisir à diriger?
Je vous dirais très très sincèrement, il y a pas mal de chefs d'orchestre qui n'aiment pas diriger son répertoire, pour les raisons que j'ai dit d'ailleurs, parce que apparemment l'orchestre est en deuxième plan. Mm-hmm. Ce n'est pas vraiment comme ça, parce que dans l'orchestre il y a une vie et l'orchestre participe beaucoup, doit l'accompagnement est un art et c'est très difficile, mais si on trouve la clé, l'orchestre est très important dans ce répertoire, Et je vous dis sincèrement encore que j'ai appris avec le temps à aimer ce répertoire parce que c'est difficile de trouver la clé pour donner la vie à cette musique. Parce que si on joue tout simplement l'accompagnement, comme ça, c'est fini. Et alors, même la belle mélodie reste une belle mélodie, mais le bel canto, ce n'est pas la belle mélodie. C'est une mélodie romantique qui doit émuer, doit être émouvante, doit être vraiment l'expression de l'âme. Et alors, on comprend même la longueur de cette pièce et on comprend les raisons. Par exemple, je trouve que très très souvent des pièces comme la Sonnambula par exemple, ils sont très très, très mal entendus. Parce que et c'est un danger. En Bellini, vous avez toujours une belle mélodie, en italien on dit coulante, c'est la crèche, une mélodie que.
Les airs qui bercent.
Qui bercent, voilà, qui bercent. Une air qui berce. Et c'est dangereux parce que c'est facile de devenir égal tout le temps. Et alors, la belle mélodie peut être une mélodie dramatique, peut être une mélodie plein d'amour ou de haine. Donc il faut vraiment trouver dans ce langage le moyen d'exprimer les sentiments. Sinon, vraiment, ça reste quelque chose d'agréable.
Finalement, on n'est pas très loin de la littérature et de ce que disait Rimbaud à la fin du siècle, hein, mais en la fin du 19e siècle, quand il disait qu'il fallait trouver une langue, là, c'est avec cette langue, il faut trouver à l'intérieur de la langue quelque chose pour l'exprimer. Et cette langue très typique du bel canto, donc début du 19e siècle, où donc on parlait de Bellini, mais on peut parler aussi, dans ce début du 19e siècle, d'autres très grands noms, comme par exemple Donizetti ou alors Rossini. Et parmi ces trois, comment vous les caractériseriez, tous les trois qui se sont connus, qui ont partagé parfois des collaborations quelle couleur a Bellini dans ce triangle des trois du bel canto?
D'abord, Rossini, c'est le maître pour tous les compositeurs de la première partie du 19e siècle et même. Et même plus tard encore Verdi, et vraiment il y a beaucoup de l'héritage de Rossini. La différence est dans l'esprit. Les compositeurs qui suivent Donizetti, Bellini, ils sont tout à fait plus romantiques et en plus ils commencent à ressentir de le Risorgimento, c'est l'époque quand l'Italie essayait de trouver l'unité et l'indépendance des étrangers. Et donc il y a beaucoup de choses que vous ne trouverez pas en Rossini. D'accord. Et donc la différence, c'est dans l'histoire même du pays. Et par rapport à la musique, il y a un développement, bien sûr, de l'harmonie qui devient de plus en plus riche et de l'orchestration. C'est un procès qu'on trouve un peu partout, dans toutes les nations, en France ou en Allemagne. Et c'est vrai en Italie aussi. Et plusieurs critiques disent que Rossini a arrêté d'écrire peut-être pour cette raison, parce qu'il avait compris que son temps était fini. Il avait tout dit, il avait, je ne sais pas, personne ne sait si c'est vrai ou pas, parce que si on entend le Guillaume Tell, c'est vraiment moderne.
Il avait tout dit à 37 ans. Lui aussi, il a fini sa carrière très tôt.
Très, très tôt.
Donc là, c'est...
Mais c'est vrai que l'esprit est différent. L'époque de Rossini, c'est avant l'époque des nationalismes, du risorgimento.
Et je le disais avant de cet entretien pour nos auditeurs, c'est vrai que là, on est dans une pièce totalement politique. 17e siècle, Angleterre, les puritains contre Charles Stuart.
Et il faut dire que les Squeal et la Tromba, le fameux duo entre la basse et la bariton, et le bariton, Squeal et la Tromba, était une espèce d'hymne national avant l'unité d'Italie. C'était vraiment comme ça, vive la liberté, aux armes, comme ça, contre l'ennemi. En Italie, c'était absolument impossible de faire. Et donc, c'est devenu une espèce de hymne pour les révolutionnaires italiens. Donc le côté politique est tout à fait fort dans cet ouvrage.
Justement, ce concert, c'est ce soir, puisqu'on enregistre mardi 13 novembre dans l'après-midi, c'est-à-dire quelques heures avant le concert. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, comme ça, quelques heures avant le concert?
Je peux souhaiter que mais je sais que c'est déjà comme ça, les Lyonnais aiment le bel canto, parce que c'est déjà plusieurs années qu'on fait ce projet avec Evelino Pido, et le succès était toujours vraiment, vraiment formidable, et donc le public aime et comprend très bien ce répertoire qui est vraiment important.
Très bien, et ben on vous souhaite tout ce bonheur là et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ce sera le mot de la fin. Merci Stefano Rabaglia.
C'est moi, merci.
Le 10e numéro dans Spectateur touche à sa fin. Rangez les coupes de champagne, mais sortez les agendas pour noter que la semaine prochaine, nous vous proposerons une émission au programme riche avec la présentation du spectacle Trace, joué très bientôt au Théâtre des Marronniers, et dont Grégoire Blanchon et Benjamin Guibert, respectivement metteurs en scène et musiciens, viendront nous parler. Nous reviendrons également sur deux spectacles très différents, Programme et Le Guide du Démocrate, aux Ateliers de Lyon, que nous vous présentions la semaine dernière, et enfin Les Puritains, dont je vous parlais à l'instant. Beau programme en perspective, donc, et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma, à l'opéra ou au théâtre, bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.